André Casse, le veuf accusé à tort, épisode 3. André Casse est soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son épouse, Sylviane, pour toucher l'héritage. Un bon moyen d'éponger ses dettes colossales. Seul hic, en dehors de témoignages bancals, les policiers n'ont aucune preuve. Ni transfert d'argent, ni aveu, rien. En juin 1995, André Casse est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a fait appel. Son avocat le prévient, il va certainement retourner en détention. Puisque la justice semble perdre la tête, eh bien Casse ne va pas se priver pour en rajouter. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Juillet 1995. Costume blanc, chemise taupe, cravate et souliers cirés, André Casse, tout endimanché, est devant la porte du centre de détention de Rouen. Par la voix de son avocat, il a appris que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen le renvoie en prison. Ni une, ni deux, il devance la police et se rend. Seul problème, l'ordonnance de mise sous écrou n'est pas encore parvenue au centre de détention. Casse est donc devant la porte de la prison qui refuse de le laisser entrer. Une situation ubuesque filmée par des journalistes de France 3 Normandie.
On me dit on n'a rien pour vous, on a téléphoné au greffe et manifestement on ne peut pas vous accepter. Alors je ne sais pas ce qui se passe, je vais appeler les gendarmes à Duclerc pour leur demander s'ils ont un élément quelconque qui me permettrait de rentrer. Mais là ça fait deux fois que je me présente spontanément. Je dirais que ça commence à devenir le grand guignol. Là, on est dans Ubu. Enfin, je veux dire, dans ce roman, la réalité dépasse la fiction.
Cette scène presque irréelle est l'estocade finale d'un homme qui, depuis sa libération, 4 semaines auparavant, a fait le tour des rédactions, son dossier sous le bras. La justice déraille. Lui le sait depuis novembre 1993. Maintenant, tout le monde le voit. Le pouvoir judiciaire tournait en ridicule devant les caméras et les reporters. Il ne manquait plus que ça. André Casse retrouve sa cellule, mais la donne a changé. En octobre 1996, un nouveau procureur général est nommé à Rouen. Il hérite du dossier Casse et décide de tout reprendre depuis le début. Il ne lui faudra pas plus de 40 minutes pour se rendre à l'évidence. Il n'y a rien contre André Casse. Il ordonne sa libération sous contrôle judiciaire le 16 octobre 1996. Cette fois-ci, c'est la bonne. André Casse quitte la prison de bonne nouvelle. Il a 45 ans. Malek Mestoui, 41 ans, Driss Ouchani, 29 ans, sont eux aussi libérés. Pour arracher cette décision, l'avocat de Malek a fait valoir la notion de délai raisonnable pour juger un prévenu. La détention provisoire permet en effet au juge d'instruction de monter son dossier en vue de la comparution du prévenu devant une cour. Un peu de procédure juridique, juste pour que vous compreniez. Pour les crimes, la détention provisoire ne peut excéder 1 an. Elle peut dans certains cas être prolongée de 6 mois, mais ne peut excéder les 2 ans si le prévenu encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion. Dans le cas de Mestoui et Ouchani, les délais sont passés et bien dépassés. André Casse a passé 3 ans en détention provisoire, soit 1044 jours. Il va rester encore 8 ans sous contrôle judiciaire. Son non-lieu définitif est prononcé le 26 mars 2004, à quelques jours du 12e anniversaire du meurtre de Sylviane. 12 ans d'acharnement judiciaire sans précédent. La joie est à la hauteur de l'épreuve traversée, mais l'homme ne se contente pas de cette victoire. Il veut la vérité. Au micro du JT de France 2, le 16 juin 2004, il se livre.
J'ai un sentiment de gâchis terrible. Moi, ça fait 11 ans que ça dure, après 3 ans de prison dedans et 8 ans dehors. Et on attend donc de rencontrer des gens du ministère, au ministre en question, justement pour savoir quelles mesures ils comptent prendre pour que ça reste pas. Parce qu'il y a des faux témoignages, il y a un inspecteur qui a commis des subventions de témoins, il y a des magistrats qui n'ont pas lu le dossier.
En détention, André Casse a vu tous ses biens vendus par les banques pour éponger ses dettes, payer ses avocats et surtout subvenir aux besoins de ses enfants. Lui et sa famille auraient perdu près de 2 millions d'euros. En 2005, la cour d'appel de Rouen lui octroie 70 000 euros au titre de préjudice moral. Pour info, 67 000 euros sont directement saisis par le fisc. 70 000 euros sont également attribués à Abdelmalek Mestoui et Driss Ouchani, les deux grands oubliés de l'affaire Kaas qui, eux aussi, ont tout perdu. Travail, femme et enfants. En 2004, André Kaas publie aux éditions Michel Lafon « Pas de pitié pour les innocents ». Sur la couverture, l'homme pose les mains agrippées à une grille comme pour signifier que même blanchi, il reste prisonnier d'une erreur judiciaire. Il demande réparation. En 2005, dans l'émission « Tout le monde en parle », il fait face aux questions de Thierry Ardisson, accompagné de sa fille aînée. Il a vieilli, s'est arrondi, mais le caractère est toujours là. Il parle librement de sa vie, de son libertinage, de sa folie des grandeurs, de ses dettes et de l'acharnement judiciaire.
À partir du moment où on vous reproche quelque chose pour lequel vous êtes coupable, bon, à la limite, je dirais presque que la défense est facile parce que vous avez fait quelque chose ou pas, vous savez, donc vous pouvez discuter. Mais si on vous reproche un truc totalement absurde, là, c'est difficile parce que vous ne savez pas d'où ça tombe. Et en plus, la discussion est absurde, c'est-à-dire qu'on me reproche un héritage, il faut savoir qu'on refusera le sien. On me reproche un contrat d'assurance qui n'est pas à moi. J'étais devenu, comment dire, un type absolument abominable. Et là, d'un seul coup, je ne comprends pas.
En décembre 2007, la Commission nationale de réparation de la détention provisoire lui accorde 103 000 euros d'indemnité supplémentaire. Mais pour André Kaas, le compte n'y est pas. 103 000 euros d'indemnité pour 1044 jours de détention, cela fait moins de 99 euros par jour d'emprisonnement à tort. Il faut dire qu'entre-temps, une affaire a rebattu les cartes en matière d'indemnisation. Rappelez-vous l'affaire d'Outreau que je vous avais racontée lors d'une précédente saison de homicide. En décembre 2000, les enfants de Myriam Badawi et Thierry Delay accusent leurs parents de viol. Ils dénoncent aussi un autre couple et 13 autres personnes qui vont passer 3 ans de prison avant d'être innocentés. L'affaire d'Outreau, erreur judiciaire sans précédent, avait même poussé le président Jacques Chirac à présenter ses excuses aux accusés à tort. 15 jours après leur acquittement, tous ont reçu une provision de 250 000 euros. Si les montants restent secrets, on parle d'1 million d'euros pour certains d'entre eux. Les sommes couvrent le préjudice moral, la faute lourde de l'État, la détention provisoire et le préjudice matériel. L'examen du cas d'Alain Maricot, l'huissier de justice accusé à tort et incarcéré 691 jours avant d'être blanchi, eh bien prend plus de temps. Il faut là estimer le manque à gagner lié à la perte de son étude. Eh bien son histoire rappelle à bien des égards celle d'André Kaas, la surmédiatisation en moins. En novembre 2011, André Kaas est donc de retour devant la Commission nationale de réparation de la détention provisoire et il demande 5 millions d'euros au titre du préjudice moral et économique. L'avocat général estime le montant des indemnités à 530 000 euros. Il n'obtiendra en fait que 173 000 euros. André Kaas cherche toujours à savoir qui a assassiné son épouse, mais le saura-t-on un jour ? Depuis son non-lieu en 1996, la justice a appris de ses erreurs. Elle a ressaisi la gendarmerie d'Amville-en-Bourville. 4 ans après le meurtre de Sylviane, les gendarmes qui reprennent le dossier ne peuvent que constater les manquements et pas des moindres. Dans la maison familiale, ils retrouvent 2 douilles logées dans le mur et oubliées lors des premières constatations. Ils se rendent compte également que les empreintes de la victime n'ont pas été prélevées lors de l'autopsie. Du travail bâclé. Et puis, il y a la piste de DS, les initiales d'un homme qui figure dès le départ sur la liste des suspects. Il fait du porte-à-porte avec des lithographies. un moyen pour lui de repérer les maisons qu'il va cambrioler. Quelques semaines avant le meurtre, DS a tapé à la porte de la grande maison des Casses. Julien, le fils, se souvient très bien de cette visite. Le vendeur était très curieux du système de sécurité, l'alarme et les chiens. Dès le 10 avril 1992, la piste DS, évoquée sur un PV de synthèse des gendarmes, comme pas encore explorée, est enterrée. En 1997, 5 ans après le meurtre de Sylviane, et alors que son mari a déjà purgé 3 ans de prison à tort, DS est incarcéré à Paris pour des vols avec violence. Le juge parisien Nguyen, en charge du dossier, sait que DS était dans la région de Rouen en avril 1992. Il transmet donc l'info à son homologue de Rouen. Et que fait le procureur ? Eh bien, c'est ce que je vous raconterai dans le dernier épisode à ne pas manquer sur l'affaire Casse, le veuf accusé à tort. En effet, André Casse sera mon invité. Il a accepté de répondre à mes questions. En attendant, n'hésitez pas, chers auditeurs, à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.